Une description rapide de Trafic. Bon, c'est une revue de cinéma, c'est le numéro 1. Une seule photo, elle fait la première page et on cherche, on est intrigué, on voit une photo d'une famille, qui c'est ça. Alors on cherche quand on est un peu curieux et on s'aperçoit, c'est la famille Rossellini. On feuillette un peu Trafic et on a une lettre de Rossellini. Rossellini comme un phare qui revient un peu du passé. Jean-Claude ?
Oui, parce qu'en fait, plus ça va, plus on s'aperçoit que Rossellini, il est au centre du cinéma. C'est-à-dire qu'il il termine absolument une grande époque du cinéma en innovant d'une manière absolument ahurissante, puisque quand on songe que quand il a fait Rome, ville ouverte, le producteur lui a dit c'est pas du cinéma, et le producteur était furieux. Et Rossellini, je me souviens, m'avait raconté, quand il m'a dit ça, je lui ai pissé sur les pieds. Ça a été plus fort que moi. Et donc ça a été un traumatisme pour le cinéma, Rossellini. Et il a, par la suite, dans la mesure où il était à la moitié du chemin du cinéma, il a été le grand protecteur de tout le cinéma à venir après lui. Donc, à la fois historiquement et esthétiquement, mais sans aucune coupure, il est au centre de tout, Rossellini. Tous les problèmes qu'on peut se poser. Je trouve justement, à cause de cette histoire d'urgence dont je parlais tout à l'heure, son importance me paraît beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne me paraissait il y a 3-4 ans, où j'étais un peu dans un état de désaffection par rapport à Rossellini, dans la mesure où toute son entreprise d'éducation du public par la télévision, en faisant ses grands films encyclopédiques sur les diverses époques de l'histoire, tout son grand programme d'éducation du public me paraissait très... me paraissait une mauvaise utopie. Et en fait, il reste, à mon avis, peu de choses de ces films-là. Sa grande œuvre, c'est entre Rome, ville ouverte et...
Louis XIV.
Et Louis XIV. Louis XIV étant un des premiers, je crois peut-être le premier de cette série encyclopédique, et étant le meilleur. Et donc, maintenant, Rossellini m'apparaît comme... le point sur lequel c'est le meilleur terrain de réflexion aujourd'hui sur le cinéma qu'on puisse avoir. Même si, par ailleurs, moi j'ai des réserves sur certains aspects de ses films, etc. Mais il n'empêche que c'est peut-être le cinéaste le plus stimulant de l'après-guerre, simplement. En fait, il s'identifie avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à mon avis, on n'est pas prêt d'en finir avec Rossellini. Parce qu'en plus, quand on voit ces films, ils atteignent un point d'émotion tellement fort qu'on ne peut pas se dire c'est simplement de l'histoire. C'est un cinéaste qui est sans arrêt au présent et qui rencontre de la réalité de la manière la plus ouverte et la plus universelle. Et justement, pour revenir à Kiarostami, ce cinéaste iranien, je trouve que peut-être dans une démarche plus modeste et moins conquérante, il a quelque chose d'aussi neuf que Rossellini en son temps. C'est-à-dire, vu l'état dans lequel se trouve le cinéma aujourd'hui, le cinéma de Kiarostami ouvre des perspectives, même dans un registre assez modeste, il ouvre des perspectives que je ne vois pas d'autres cinéastes de longtemps en ouvrir d'hôtel.
Dans le texte de Kramer, c'est ça, il parle du jeu. Et beaucoup de textes sont écrits à la première personne, du moins. Et il fait remarquer qu'en vietnamien, il n'y a pas d'équivalent au jeu.
Ou aïe,
ou ish, etc. Et ça, ça me semble très important, ce jeu, parce que les textes sont très divers. On va pouvoir revenir sur les... J'aime pas trop le mot de statut, mais enfin, il y a des gens très différents qui ont écrit dans le trafic. Des gens qui ont plus à voir habituellement avec la philosophie, vous, comme Schaeffer, ou le texte sur le geste, par exemple. Et je crois que cette revendication très forte du « je », ça me semble très important aujourd'hui, surtout avec justement toutes ces interrogations que Kramer porte sur les certitudes idéologiques et peut-être la place du « je » quelque part.
Oui, cela dit, Kramer, il avait toujours fait des films à la première personne, même quand il était militant, traître à sa patrie. Sinon, il aurait disparu, comme tellement de cinéastes qui, pour la bonne cause, ont fait des films dont ils partageaient les convictions, mais seulement les convictions, c'est-à-dire pas, ça ne passait pas dans un corps. Et ça lui a quand même pris beaucoup de temps à Kramer à pouvoir rebondir personnellement avec cette histoire-là. Il a presque perdu une dizaine d'années. Il a filmé avec des hauts et des bas avant de... C'est assez drôle d'ailleurs, car c'est quelqu'un qui a absolument besoin de l'histoire et besoin d'une certaine épaisseur tragique de l'histoire. Et Kramer est vraiment revenu à la surface avec Route One et Doc Skinton, qui sont deux films qui ont été faits à la fin de cette décennie, justement, 80, dans laquelle lui n'était pas du tout à l'aise. Et donc il a renoué avec un jeu grave, une sorte de gravité. Il y a deux aspects chez Kramer. Il y a un aspect un peu aventurier, un peu voyou. Il y a un aspect examen de conscience permanent. Et c'est le second aspect qui chez lui est créateur. Et ça fait des années que moi je le vois de plus en plus souvent. Parce qu'on l'a vu très longtemps, puisque Kramer, ça a été très important dans notre histoire. Aïe, ça a été très important. Milestone, c'était très important. Donc c'est parmi les cinéastes, c'est un des vrais compagnons de route que quelqu'un comme moi peut avoir. On est aussi passé par les mêmes naïvetés, ou les mêmes impasses, ou les mêmes histoires idéologiques réellement. Aujourd'hui, ça fait très très plaisir qu'il soit prêt et qu'il soit fidèle au rendez-vous pour commencer à liquider son dossier vietnamien. Il faut bien qu'il le liquide. Et voilà, donc le texte, il n'y a pas eu de problème, il y a à le faire, il y a à le donner, c'était évident. Mais je veux dire que pour moi, c'est très important que certains cinéastes typiques de l'époque, pour moi, Kramer est un grand cinéaste, inégal, mais c'est un grand cinéaste, ou c'est un vrai cinéaste, soit là, comme on a été finalement très content que Kiarostami nous donne un papier pour le numéro 2. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, je fais le pari que ce qu'on a vécu d'une façon naïve et au premier degré, comme toujours quand on vit sa jeunesse, dans les années 70, risque de réintéresser les gens jeunes seulement aujourd'hui. Voilà. Et qu'il faut être prêt pour le rendez-vous, que moi j'ai toujours été prêt pour ce rendez-vous, et pendant 10 ans, en un sens, quand j'ai créé la Libération, tout ça, je piaffais seul dans mon coin à faire les questions et les réponses, en me disant toujours, faudra être prêt le jour où les gamins nous poseront des questions. Ils n'en posaient jamais. Alors on finit par s'habituer à vivre ça. Mais depuis quelque temps, je pense que non. Je pense que cette expérience-là va être peut-être réinterrogée. Alors voilà pourquoi Kramer, mais pourquoi aussi bien Alias Sambar, que je ne connaissais pas, sinon que je savais qu'il faisait cette revue, qui est une bonne revue, qui est la revue palestinienne, et que j'ai rencontré par hasard, et ça a pris 3 minutes pour moi de le convaincre de raconter cette histoire avec Godard, vu l'importance d'ici et ailleurs, pour moi. C'est un film que j'ai trimballé dans le monde entier. Je pense que pendant 1 an ou 2, s'il n'y avait pas eu ici et ailleurs, j'aurais rien eu à dire en public. Là, c'était vraiment le moment où Godard, qui lui-même n'allait pas très bien, c'était dur pour tout le monde, était quand même terriblement utile, comme force de pensée. Donc moi, j'ai beaucoup d'affection pour ici et ailleurs. Et je suis triste que plus personne ne connaisse ce film, quand Sambar, que que je rencontre tout à fait pour autre chose, m'en parle avec plutôt une sorte de gaieté, enfin de narrateur oriental, parce que c'est ce talent formidable des orientaux que nous on n'a pas, nous on ne sait pas raconter notre saga de cinéphile, on est trop égoïste. Ça m'a fait quand même très plaisir qu'il le fasse si facilement. Et puis on l'a mis à côté de Kramer parce que tout d'un coup, moi j'avais, c'est très égoïste, mais je crois que c'est un égoïsme au bon sens du terme, moi j'avais ma revanche, Milestones et si ailleurs, 15 ans plus tard. Pas toujours. Et ça, il faut le dire à des gens dont c'est pas l'histoire. Il faut dire, ben, c'est la nôtre, elle n'est pas nulle. J'en dirais pas autant des années 80. Ça, ce ne sera pas notre histoire, donc moi je ne m'en sens pas comptable de ces années. Mais je redoute ceux qui auront eu 20 ans dans ces années-là, quand ils, les moins nuls d'entre eux, enfin ceux qui se posent ces questions que chaque génération se pose, c'est trop drôle, qu'est-ce qu'ils vont dire plus tard? En même temps, bon, ben, si c'est le fascisme qui l'emporte, et que c'est Le Pen qui gagne, on dira c'était l'avant-guerre. Les années 80 apparaîtront comme Zazou, comme Sublime, comme Gay. Ça dépend de ce qui va se passer. C'est très important. Hein. On a des illusions d'optique terribles sur qu'il y a toujours un avant et un après. Mais si les choses redeviennent un petit peu plus exigeantes ou un petit peu plus graves, cette décennie-là traquera un peu avant que... Bon.
Il y a ça, hein, le côté du retour de spirale. C'est un truc qu'on ne comprend que quand on a vécu un peu dans sa vie. On a beau le savoir, jeune, ça ne marche. Ça ne marche pas, on pense toujours que tout est linéaire. Moi, je sais que le retour de d'ici ailleurs et de Milestones dans ma vie, dans une revue, 15 ans après, je trouve que c'est une petite victoire personnelle de ne pas avoir perdu le fil de son histoire. Son histoire collective, qui n'est pas que la mienne. Et que ça se fasse naturellement, ça fait plaisir. Mais beaucoup de gens disparaissent dans l'entre-deux. Beaucoup de gens sont évaporés, corrompus jusqu'à la moelle, vendus jusqu'au trognon, ou en pré-retraite. On est une génération qui est celle des 40-50 ans, prématurément en pré-retraite, très souvent.
Tu parles là quand même de cette espèce d'intervention que pourrait avoir Trafic dans le petit monde intellectuel français.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça sert à ça, une revue. Une revue, ça a toujours été une volonté de hasarder 3-4 trucs dont on est sûr, dont on est un peu certain.
Puis on voit qu'à toutes les époques, des gens qui, ce soit des écrivains ou des musiciens ou des cinéastes à toutes les époques, enfin à partir du XVIIIe siècle, ont fondé des revues pour pouvoir discuter et préciser leurs idées et leur conception de leur art au moment où ils estiment que leur art risque, le danger soit d'être incompris, soit d'être bouffé par quelque chose de plus puissant. Donc ça, c'est la continuation d'une tradition...
Depuis le romantisme.
Oui.
Donc vous êtes les derniers romantiques.
Ah non. Non, puis quand je dis romantisme, c'est pas du tout dans le sens Mievras, etc.
Non, mais ma question...
C'est l'Athénéum, c'est oui. Hegel, c'est Schlegel, c'est ces gens-là qui s'envoyaient des nouvelles les uns les autres. C'est plutôt en tant que le romantisme a précipité l'idée d'information et de communication. Et qu'on est tous, autant qu'on est, depuis bientôt 2 siècles, pris dans cette très, très large histoire du romantisme. Qui d'ailleurs n'a pas que des avantages, a aussi d'énormes inconvénients. Mais à mon avis, forte possibilité d'un grand retour de bâton, d'une grande nouvelle donne vers un 21e siècle qui ressemblerait plus au 18e, disons. Ça, on le sent en plein de signes. Mais, je veux dire, par rapport à ça, on peut être simplement un bon journaliste, ou on peut être honnête avec son histoire, ou raconter des choses qui tiennent la route sans trop s'en faire, parce que ça nous dépasse. Si, disons, la publicité devient un art à part entière, si la communication sociale est assurée par des procédures absolument mercantiles de A jusqu'à Z, toutes ces choses qu'on voit un peu se mettre sur pied, etc. Oui, la conception romantique, disons, de l'artiste comme ayant rapport au sacré, mais pas un prêtre, ayant rapport à la dissidence, mais pas forcément un politique, ayant rapport... oui, ça va être malmené. Mais je dirais que par rapport à ça, pour nous, c'est trop tard. On est né là-dedans et on mourra là-dedans, nous. Le problème, c'est de ne pas devenir les prêtres de ça, ou les profiteurs de ça, ou les macros de ça. Au sens où Stroh parlait toujours des macros de la culture. Mais là, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse.
Oui. Dans Trafic, donc il y a, je ne sais pas combien, j'ai pas noté le nombre de papiers, mais on a l'impression, donc sans savoir comment les papiers ont été commandés ou demandés, parce qu'on a l'impression quand même que c'est une bande d'amis qui reviennent autour d'un projet dont on a parlé tout à l'heure, donc d'intervention un peu culturelle. Et on a l'impression qu'il y a des articles comme ça qui se répondent, qui sont des thématiques. Bon, il y a l'article d'Agabène sur le geste, qui est peut-être poursuivi par Raymond Bellour dans La mort et la suie. Ensuite, il y a le Sud, ce qu'on pourrait appeler le Sud par rapport au Nord, qui est développé par Elias Samba, Robert Kramer et même les Sigaplan. Et l'article qui fait l'entrée donc de Trafic, qui est ton journal de l'an dernier, Serge Danet, qui est une réponse américaine par Bill Crone. C'est intéressant ce qu'on voit là, le Trafic dans ce sens-là.
Oui, il y a des choses qui étaient voulues. Après, il y a des choses qui étaient la mise en scène d'un dialogue qui, de toute façon, avait lieu. Il n'avait jamais arrêté. Donc, avec Bill, le dialogue n'a jamais arrêté. Entre le moment où je l'ai découvert à New York, il y a presque 15 ans maintenant, et puis aujourd'hui. Et puis il y a des choses plus surprenantes parce qu'elles se font toutes seules. Par exemple, Agamben, moi j'avais lu ce qu'on peut lire en France d'Agamben. 3-4 petits bouquins, je trouvais formidable, surtout en France et histoire, et puis la communauté qui vient. Et on a ceux qui passaient à Paris, au collège de philosophie, on y est allé avec Rollet. Et on lui a parlé un peu de la revue, on s'est revu un peu au café, on lui a expliqué. Et puis ça s'est passé un peu comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'il était content, intéressé, qu'il a écrit son texte dans les délais, qu'il a fait traduire lui-même, et que il s'est avéré que ce texte était tombé pile pour nous, et que lui est un cinéphile moyen, c'est un philosophe. Moi j'aime beaucoup ce texte parce que intellectuellement il me stimule beaucoup. J'aime bien les idées quand même. Il n'y en a pas beaucoup hein, d'idées en circulation dans le cinéma depuis quelques années. Et moi il m'a permis de rendre plus net, plus assertif, plus violent une idée que j'avais déjà. J'avais déjà écrit un peu pour moi, mais un peu en m'excusant. Moi, je disais toujours, pour moi, le cinéma, c'est pas de l'image, c'est du temps. Je disais toujours ça, enfin, depuis quelques années. Et je dois pas être le seul, je me disais, parce que les gens qui aiment l'image pour l'image, ils se retrouvent devant Jean-Jacques Annaud. Mais les gens qui aiment plutôt le temps, ben, ils seront toujours bouleversés par un Romer, même si le Romer est en 8000 mètres. Et souvent, on avait des vraies bagarres avec, disons, l'opinion moyenne sur le cinéma, c'est que le cinéma est un art de l'image. C'est une longue histoire, elle est assez intéressante. Dans les années 60-70, comme elle était très politisée, la politisation passait par le son. Donc la bagarre, c'était l'image est moins importante que le son. La bagarre Stroh, la bagarre Godard, la bagarre du son direct, les discours, tout ça. On se battait pour le son. Et déjà un peu contre l'image. Et puis, la même bagarre ressurgit régulièrement. Par exemple, moi j'ai opposé l'image au visuel. Même les gens des cahiers, à un moment, ont fait le cinéma contre l'image. Le cinéma, c'est pas uniquement la gestion des imageries. Ou contre l'audiovisuel. Bon. Et puis là, tourner un peu autour du pot et le texte d'Agamben tombe un peu comme un vrai rendez-vous objectif.
Lui, il dit, ce qui compte dans le cinéma, c'est le geste. Et immédiatement, ça fait rime. Ça veut, d'abord, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de la même idée. Moi, je tournais autour de la même idée. Et aujourd'hui, je me l'approprie. Je dis, c'est plus intéressant de penser le cinéma comme un moment de l'histoire des gestes humains. Alors, des gestes visuels, des gestes optiques, des gestes qui, évidemment, à un moment, c'est le fond de l'image. Il ne faut pas du tout dire que l'image n'existe pas. Elle existe dans le cinéma, à des conditions de sophistication et de richesse extraordinaires. Par exemple, créer un plan. L'unité du cinéma n'est pas l'image, mais le plan. Donc ça fait 20 ans qu'on dit ça au cahier. Il y a des films, il n'y a pas de plan, ils ne sont pas regardables. Pour moi, ils ne sont pas regardables. J'ai vu Le Mans, c'est un peu moins abject que la campagne de presse du film. Mais ce n'est pas regardable pour une raison très simple, c'est que c'est que de l'image. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Les images, pour moi, c'est pas le carte postale, le chocolat Suchard. Voilà, c'est les images de l'enfance. Mais dès qu'il y a du plan, c'est intéressant. Pour qu'il y ait du plan, il faut qu'il y ait du geste. Pour qu'il y ait du geste, il faut qu'il y ait de l'éthique. On voit bien comment les grands cinéastes, ils inventent un geste. Alors des fois on le voit, des fois on le voit pas. Dans le burlesque, on le voyait un peu, maintenant on le voit plus. Les grands cinéastes, aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui vendent leur corps eux-mêmes. Ils se trompent moins. Les Moretti ou les Montaillon, quand ils se dédoublent. Je trouve que cette problématique que le cinéma, on va plutôt le reprendre du côté d'un geste visible, des traces visibles d'un geste, qui n'est pas celui de la peinture, qui n'est pas non plus celui de la photographie, qui n'est pas celui de la littérature. C'est vrai que ça se retrouve dans beaucoup de textes. C'est vrai que par chance, c'est formalisé d'une façon assez stimulante par un type dont c'est le boulot de formaliser, qui s'appelle Agamben. Et moi, alors, je m'en sers outrancièrement, parce que je tournais autour de ça, et là, grâce à Trafic 1, je me dis, bon, ben, c'est bien plus intéressant, cette histoire de geste, même provisoirement, même comme un outil, que ce qu'on voit en train de dominer vollement et scandaleusement le monde audiovisuel et le monde des médias, qui est justement une gestion de l'imagerie. L'imagerie se faisant passer pour l'image. Certainement que des gens comme moi, on a un trop grand respect, trop religieux, trop apeuré, trop mystique par rapport à l'image, donc on n'en parle pas trop. Car on sait bien qu'en dernière analyse, oui, il y a de l'image au sens où il y a de l'icône, mais que le cinéma est peut-être une façon d'aller vers des images. Mais que la façon d'y aller, ça passe par quelque chose qui s'appelle, qui a au moins deux faces, une face pas visible, qui est le geste, et une face visible, qui est le plan. Et le plan n'est pas que visible, il est audible, il est logique, il est conceptuel. Les aveugles peuvent très bien voir des films. Je connais une femme qui est... Il y a des gens qui n'auront jamais senti ou compris ou réfléchi ce que c'est qu'un plan. Pourtant, le mot plan est magnifique en français, il veut dire plein de choses, y compris dans le vocabulaire des jeunes. Un bon plan, un mauvais plan, ça devrait faire image mieux, je veux dire, le mot plan. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre, parce qu'on est un peu introspectif, ou qu'on n'a que ça à s'occuper, son propre rapport au cinéma, que là où il n'y avait pas de plan, je ne pouvais pas regarder. Moi, je m'ennuyais. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de regarder autre chose. J'étais dissipé, j'étais comme à l'école, quand on est devant un prof qui ne sait pas vous intéresser. Moi, j'ai toujours été très, très éparpillé et dissipé, et immédiatement, l'attention fout le camp, et j'avais du mal à regarder l'amant. Si j'avais pas des bonnes raisons idéologiques comme ça, un peu du gros œuvre de détester ce genre d'opération, objectivement, je me suis autant ennuyé qu'à Havana de Sidney Pollack. Voilà. Pour prendre un cinéaste, à peu près sans intérêt. Et plutôt un brave type d'ailleurs.
Oui,
mais je veux dire que, sauf qu'Havana, c'est... ça intéressait personne parce que la mode est passée de ce cinéma américain-là. Enfin, c'est à peu près comme la mort. Je n'arrive pas à voir ces films. Donc il y a quelque chose dans ces films qui, moi, ne me touche pas en tant que je suis cet animal cinéphilis, humanis, qui a besoin du temps, l'invention du temps, le geste qui donne le temps, et la profondeur fictive du plan, toute profondeur audiovisuelle, et même qui inclut le corps, même imaginairement. Quand on comprend ça, on est quand même très très fier d'avoir aimé le cinéma et de s'être repéré personnellement sans trop y laisser de plus.
dans ce monde donné par le cinéma ou promis par le cinéma. C'est vrai qu'on se sent, comme la phrase ne sera pas, on se sent protégé par ce qu'on a aimé. Mais quand cette épaisseur a disparu, quand l'image reprend ses droits, quand l'imagerie médiévale dicte sa loi, quand la publicité devient une façon d'être au monde, et non pas seulement de vendre des marchandises, on se dit que dans le pire des cas, ça annonce des choses pas jolies jolies, dans le meilleur des cas, c'est une autre donne, mais tellement énorme qu'il ne faut pas être trop triste d'appartenir à un monde plus ancien.